Alors, je voudrais que ce soir, on continue sur l'importance du questionnement autour du savoir et de ce qu'il est possible de supposer à partir de la dialectique du transfert, en sachant que, avec Lacan, lecteur de Freud, et supposer qu'il y a, dès lors que le par-l'être se met à parler, et supposer qu'il y a un savoir, et que ce savoir est dans l'autre, grand A, et que ce savoir n'est pas un savoir de connaissance. Alors, je redis ça parce que tout nous porte habituellement à en rester à la dimension de la connaissance, c'est-à-dire ce que l'on peut apprendre, ce qui est dispensé habituellement comme savoir, et ce savoir, d'ailleurs, dans certaines circonstances, pour certains êtres parlants, justement, à un tel prix qu'il ne peut pas être appris comme tel. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas, en quelque sorte, à apprendre ce qui vient de l'autre. Déjà, cette division entre prendre, c'est-à-dire apprendre, et puis prix, appris, avec la dimension du coût et du prix à payer, vous voyez que la langue nous signale, nous amène, nous met en direction du fait que ça ne va pas de soi du tout. Autrement dit, tous les discours qu'on peut entendre habituellement au nom de la psychanalyse sur telle ou telle chose sont des discours de connaissance, ils ne sont pas inintéressants, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est pas ça qui est au cœur du savoir dans l'expérience du transfert, ce que Lacan a nommé le discours analytique. Le discours analytique, le discours, c'est une expérience de discours très particulière que d'ailleurs, vous le savez, qui est liée à la présence de quelque chose qu'il a lui-même inventé, c'est l'objet petit a, qui est en position d'agent. Alors, ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant de balbutier, à partir de l'expérience de Freud, puisqu'on est parti la première fois sur ses difficultés, les difficultés qu'il rencontre avec une analysante, Lucie R. On trouve le texte dans les communications préliminaires de 1892, et tout semble tourner autour d'un mot, Kränkung, qui justement est intéressant parce que, entre autres, le traducteur a traduit comme s'il y avait en quelque sorte Kränkung, c'est-à-dire a oublié l'umlaut, le tréma qui est dessus, et dans la traduction habituelle, alors je vais vous lire l'allemand, Das Leiden erduttelte schweigend als Kränkung. Alors, ça veut dire la souffrance, das Leiden, erduttelte, on va dire, éprouvé, schweigend, en se taisant, als, comme, Kränkung, alors, c'est traduit affection, krank voulant dire malade. Alors que Kränkung, dans le mot Kränkung, il y a quelque chose qui renvoie à une expérience particulière, qui est celle, il y a différentes façons, mais il y a entre autres la dimension d'une mortification. C'est-à-dire que le Schweigen, le se taire, qui n'est pas le silence, se taire c'est pas le silence, c'est justement ça le problème, justement, s'il y avait un silence, hein, s'il est haut, c'est non, c'est pas se taire. Hein? Tacheo, c'est pas sileo en latin. Hein? Et s'il y avait justement du silence, peut-être que sans doute il n'y aurait pas le symptôme. C'est parce que justement, il y a quelque chose qui ne peut pas ne pas être présent, quelque chose on le laisse comme tel, mais qui ne peut pas être reçu comme tel, un certain savoir, que le refoulement intervient et qu'il y a constitution du symptôme. C'est comme ça qu'on peut traduire ce que apparemment Freud est le rédacteur, on ne sait pas en fait si c'est Breuer ou Freud. Mais quoi qu'il en soit, ce texte est important, puisque au même moment, Freud reçoit cette Lucière, qui est une gouvernante d'origine anglaise, qui est à Vienne, qui assure le fonctionnement de la maison d'un industriel viennois, où il y a des enfants, et elle se met à développer des symptômes, et en fait, au moment même où ce texte est fait, en fait, se pose la question, effectivement, du Schweigen, de se taire. Et ce qu'on a essayé de dire, d'une certaine façon, c'est que, justement, c'est certainement pas en fait se taire, c'est plus du côté du silence, et que c'est Freud, lui, à un certain moment, dans le transfert, qui ne peut pas être habité par un certain silence, au moment où elle lui dit que ce qu'il vient de lui raconter, c'est-à-dire qu'après tout, c'est sans doute, ses symptômes sont liés au fait qu'elle aime son patron, ce monsieur, et que c'est une sorte de déplacement par rapport à l'amour du père, et qu'elle lui dit, ben oui, ben ça, de toute façon, je le sais. Et à ce moment-là, Freud immédiatement lui dit, mais puisque vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit? On va dire que là, il y a quelque chose d'un temps particulier de discours qui est important parce que c'est quelque chose qui est laissé en souffrance par Freud, et donc il est laissé à lire, en quelque sorte, par qui peut le lire après. Et la dernière fois, toujours dans la même perspective, avec, on pourrait dire en contrepoint, l'approche de ce philosophe très singulier qu'est Condorcet, eh bien, je vous proposais la façon dont un rêve de l'homo rat avait été interprété par Freud, et la façon dont Lacan en proposait l'interprétation, à savoir que l'important, effectivement, lorsque cet être parlant rêve qu'il rêve de la fille de Freud et qu'elle a des crottes sur les yeux ou à la place des yeux, et que Freud dit, parce qu'évidemment à ce moment-là c'est une découverte, nous sommes en 1907, c'est une véritable découverte, c'est quelque chose de nouveau, qui lui dit c'est assez facile à interpréter pour celui qui connaît le symbolisme du rêve, hein, finalement, il ne l'aime pas pour ses beaux yeux, mais pour son argent. Et Freud est ainsi élevé à un certain niveau imaginaire. Alors la façon dont Lacan reprend les choses, dans le discours de Rome, oui, c'est pas n'importe où, c'est dans un contexte très particulier, est important parce que il s'agit effectivement bien d'une dimension transférentielle très particulière qui saisit la communauté analytique à ce moment-là. Il s'agit bien de la question de qu'est-ce qui peut faire lien entre les analystes, et c'est effectivement à partir de là qu'on peut entendre ce qu'il dit, à savoir que ce qui se joue à ce moment-là dans le transfert entre l'analysant et l'analyste, c'est le fait que si l'analysant donne en quelque sorte, avec un don imaginaire à l'analyste, en lui donne le fait qu'il promeut sa fille imaginaire comme étant celle de l'analyste, c'est parce qu'il attend de l'analyste en retour, en quelque sorte, mais c'est un aller-retour qui n'est pas un aller-retour simple, c'est ça la torsion du transfert, c'est ça la topologie, on pourrait dire, qui est en jeu. Il attend d'en recevoir l'alliance, sous la forme de, dans ce rêve clé, dit-il, hein, je lis son, dans un rêve clé, qui lui dévoile son vrai visage, celui de la mort qui le regarde de ses yeux de bitume. C'est-à-dire que vous voyez l'interprétation poétique de Lacan qui dépasse toute signification, surtout toute signification a priori. Ça suppose, évidemment, dans ce moment particulier du transfert, quelque chose dont on a parlé aussi la première et la deuxième fois, et que je vais à nouveau redire, parce que je crois que c'est important, puisque c'est ça qui peut permettre qu'advienne, à un certain moment dans le transfert, un nouveau temps qui puisse permettre que quelque chose de nouveau, donc un nouveau temps, quelque chose de nouveau advienne. Et ce que je proposais la dernière fois, c'était à partir de cette construction de Lacan qu'il élabore sur les trois prisonniers à la fin de la guerre, cet apologue, vous savez qu'il va reprendre ça à plusieurs reprises, c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup, hein, donc je ne vais pas détailler ce qui est en jeu, mais ce que je voudrais surtout faire ressortir, c'est le fait que, au fur et à mesure qu'il en parle, au fur et à mesure qu'il revient dessus, c'est-à-dire au fur et à mesure où il itère, il revient de nouveau, hein, il itinéraire en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il fait un voyage, quelque chose progressivement de ce prix à payer va le saisir au point que quand il arrive vers les années 74-75, il va dire que tout ce qu'il a élaboré jusque-là, notamment de ce que l'un pouvait penser de l'autre, etc., ben peut-être, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'à un moment, chacun des trois se trouve dans la même position, et cette position, c'est celle d'être objectita, d'être l'objet sous le regard des deux autres, qui en fait ne sont que ces deux autres. Il pourrait être 4, 5, 6, 7, 8, ce n'est pas le problème. En fait, ces deux autres constituent ce qu'il appelle à ce moment-là l'un, grand UN, il y a de l'un. Autrement dit, c'est pour autant qu'à un moment, alors je crois qu'on peut aller dans cette direction-là, l'analyste, parce qu'il n'y a qu'un transfert, c'est ce qu'il va bien dire aussi dans ce discours de Rome, il n'y a qu'un transfert, c'est le transfert de l'analyste, le transfert de l'analysant, finalement, il va d'une certaine façon fonctionner à sa façon, notamment dans cet exemple-là, on voit bien du rêve sur un mode imaginaire. Et si l'analyste, lui, est habité par un certain type de transfert, alors quelque chose va avancer dans le transfert. Toute la question de la formation du psychanalyste est importante. Pour autant que, et c'est où on en arrivait, et c'est on va aussi en arriver, l'analyste effectivement a un corps. Qu'est-ce que c'est que le corps, et qu'est-ce que c'est que, d'une certaine façon, le rapport à la jouissance de l'analyste, qu'est-ce que la voix comme objet chez l'analyste, qu'est-ce que le son, et donc qu'est-ce qui est au-delà de toute signification. C'est ça l'enjeu qui nous réunit. Et je voudrais dire aussi, avant d'aller plus loin, que si en 53 ou à peu près Lacan donne un écrit, RSI, c'est la même année où est découverte, vous savez, la structure de trois autres lettres qui s'appelle l'ADN. C'est assez étrange que à ce moment-là, il y ait comme ça un écrit qui rapproche les données de la science et les données de la psychanalyse, et on pourrait dire que c'est du même tabac, puisque on connaît très bien la structure de l'ADN au niveau biochimique, ça ne pose pas de problème, c'est assez facile, c'est aussi simple qu'une molécule de benzène ou autre chose. On sait aussi que l'ADN, ça peut se reproduire elle-même, mais on sait que l'ADN conjugué à l'ARN va être à l'origine des protéines qui vont constituer tout être vivant. Ça, c'est les références biochimiques qui apparaissent donc dans ces années 50 et quelques. Or, si on reprend, donc si on part, je trouve ça assez troublant quand même, Il me semble qu'à deux ou trois reprises, Lacan parle de ça assez rapidement dans un séminaire, je ne sais plus lequel, enfin, il le cite. Ce qui est assez troublant, c'est que vous voyez que tout ce qui est important au niveau de ces trois lettres ADN est lié à la façon dont va se complexifier l'organisation de cette structure. Et qu'on connaît, on connaît la structure biochimique, mais tout l'intérêt va être dans la complexification des différents arrangements. Et de même, on peut dire, c'est assez facile de décrire le réel, le symbolique et l'imaginaire. Toute la question, c'est de savoir comment le nœud tient, même si on sait que c'est le réel qui fait tenir le nœud, même si on sait que c'est l'objet A qui fait tenir le nœud, on pourrait dire que dans le transfert, c'est une façon de reprendre ce que je viens de vous dire, mais autrement, il peut y avoir à un moment la possibilité pour l'analyste d'être mu, parce que c'est quelque chose qui est lié à un mouvement pulsionnel, d'être mu de telle façon qu'il soit, en quelque sorte, le souverain qui fait tenir le nœud, d'une certaine façon. Ce serait une façon de reprendre ce qu'il peut entendre, et non pas comprendre. C'est-à-dire que dans cet agencement-là, on n'est pas du tout dans la pensée, dans la compréhension. On se situe au contraire dans un moment où la pensée est dépassée, parce qu'il faut ce temps-là, ce temps de sidération, hein, ou ce temps de kränkung, de mortification, à ceci près que si c'est une mortification, si c'est cette rencontre avec la pulsion de mort, on pourrait presque dire que là, même si ce n'est pas nommé comme tel, c'est quelque chose de cet ordre, cette barre sur le grand S, hein, au sens de l'aphanisis du sujet, si arrive ce moment particulier, toute la question est celle de savoir si ce qui fait effraction, éruption, c'est-à-dire le réel à ce moment-là, peut être accepté. Est-ce qu'il est possible de dire oui à ce quelque chose, ce reste qui à ce moment-là apparaît? Toute la question est là, et il y aurait la possibilité qu'à ce moment-là, un certain nouage, je pense qu'on pourrait dire souverain, on verra un peu pourquoi je dis ça tout à l'heure, si j'ai le temps d'en parler, ou alors on va dire un nouage noble, nobilis, vous savez que nobilis, ça vient de gnobilis, et qu'il suffit de rajouter un i, c'est-à-dire un i devant, pour passer à l'ignoble, le noble. Il suffit qu'il y ait un certain type de nouage qui est dans le langage, dans les mots dont je parle là, et non pas dans la catégorie des aristocrates, tout ça. Il suffit qu'il y ait quelque chose là qui fonctionne au niveau même du langage pour que le nouage du nobilis, du noble, fonctionne d'une certaine façon et fasse entendre quelque chose du corps et de la jouissance du corps. On est dans le corps de la langue, on est dans le corps aussi de quelque chose qui s'entend, qui se voit mais qui est invisible et qui s'entend, et c'est ce sur quoi je voudrais qu'on s'arrête un peu, pour autant que dans ce moment-là, effectivement, nous sommes dans cette configuration absolument impensable où c'est à partir du 3, c'est-à-dire du réel, que l'on accède au 2. Alors que spontanément, quand nous raisonnons et quand nous parlons, évidemment, nous passons du 2 au 3. Et cette dimension du 3, du réel, est effectivement ce que Freud découvre, bien sûr, mais ce qui va être nommé plus particulièrement par Lacan. Et on peut à nouveau reposer une question, c'est une question qu'on va développer beaucoup, peut-être un peu tout à l'heure dans la discussion, mais notamment lors du colloque, si c'est possible, qu'on va faire le 27 janvier. Est-ce que la psychanalyse, l'apparition de la psychanalyse à la fin du 19e, et le développement particulier, la direction que soutient Lacan, du côté notamment de la jouissance, est-ce que ça pourrait avoir à faire avec ce qui C'est une question, hein. C'est une question, mais enfin, c'est la question de Nietzsche, par exemple. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir à faire avec ce qui a été récusé et dont la révolution est l'effet ? En termes de discours, hein, on sort évidemment de quelque chose. Autrement dit, est-ce que cette révolution, ça va beaucoup nous interroger, pourrait en quelque sorte être un rêve qui évolutionne de telle façon que ce soit autre chose que tout ce que l'on sait déjà. Tout ce qu'on peut expliquer dans les livres sur ceci, sur cela. On pourrait dire que un psychanalyste peut penser qu'il y a eu effectivement au XVIIIe siècle, notamment en France, et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il semble que ce sont ceux qui ne sont pas français qui peuvent en dire quelque chose. On va y arriver, je ne pense pas aujourd'hui, mais la prochaine fois et après, par exemple Casanova, qui ont manifestement trouvé à Paris quelque chose de tout à fait particulier, un certain type qui renverrait à ce nobilis, ce n'est pas la noblesse en tant que classe, mais c'est un certain type de rapport au langage et au corps. Et c'est là-dessus que nous développerons une prochaine fois. Enfin, tout ça pour montrer que la psychanalyse, effectivement, a à voir avec les Lumières, ça nous le savons. Alors, il faut qu'on fasse attention quand nous savons quelque chose, parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on sait. Et ce que j'essaie de dire, là, c'est que si elle a à voir avec les Lumières, on peut articuler ça de plusieurs façons, et Alain l'articule à sa façon, je crois que c'est tout à fait important. Ce qui me semble, c'est qu'il y a aussi quelque chose, parce qu'il n'y a jamais évidemment une voie unique, il y a sans doute quelque chose qui, du côté des Lumières, concerne une certaine ombre des Lumières, qui est liée à un certain rapport à la jouissance, qui existe, qui a pu être transmis, et que certains peuvent nous transmettre. Bon, je vais m'arrêter sur ce sujet-là aujourd'hui, parce que il n'y a pas assez de développement. Je voudrais revenir justement, compte tenu de cette façon de supposer le savoir, sur ce moment particulier dont on a parlé, qui est la découverte le 29, parce qu'on a bien évidemment bien besoin des données historiques. Il n'est pas question de dire qu'on n'a pas besoin des données historiques. Quand quelqu'un parle dans le cadre de la cure, évidemment, il construit quelque chose. Toute la question, c'est de ne pas en rester aux données historiques, compréhensives, et qu'à un moment, quelque chose fonctionne qui soit au-delà de ces données historiques qui, de toute façon, sont toujours du côté du plaisir ou du déplaisir. Donc, la question qui se pose à partir de ce Condorcet, de ce Condor, là, qui est au sol, particulièrement le 29 mars 1794, qui est découvert à 14h ou à 16h l'après-midi, la face contre terre, les bras le long du corps, est tout à fait importante parce qu'on voit bien comment ça marche. Et ça continue à marcher comme ça maintenant. Immédiatement, la question qui se pose, c'est l'autopsie. L'opsis, ce que l'on voit, c'est-à-dire de quoi il est mort. Alors, on va voir qu'il saigne du nez, on va regarder, ausculter les oreilles, tous les orifices. Il ne va pas y avoir une véritable, évidemment, autopsie, mais enfin, c'est du même ordre. Et on regarde ce qu'il a dans les poches, on fait le maximum de recherches sur ce mode-là, et puis ça se termine par le fait qu'on lui met un tampon sur le front, qui est le tampon de la prison où il est, et où il devait sans doute le lendemain comparaître devant le tribunal révolutionnaire pour être conduit à la guillotine. La question qui est quand même assez étrange, vous savez l'importance c'est quand même l'importance du destin chez quelqu'un et de ce qui peut arriver comme ça, comme brisure par rapport à certains moments, c'est celle du fait que Condorcet bien sûr, est un philosophe qui a fait partie, qui a bien connu, qui a fait partie de, qui connaît très bien via d'Alembert, via les autres encyclopédistes, qui connaît très bien tout le mouvement scientifique, le développement du savoir qui fonctionne en France à ce moment-là. Et puis, à partir de là, il est entré progressivement. Alors ça, c'est une vraie question. On en parlait encore hier soir avec Alain à propos d'autres révolutionnaires. Il a pris des responsabilités. Il s'est retrouvé à l'Académie des sciences et après à l'Académie française en 1782. Et sans doute, le fait d'avoir, on en parlait encore avec Henri à propos de quelqu'un d'autre en venant, le fait d'avoir des responsabilités, ça pose quelqu'un d'une certaine façon. On sait bien que c'est aussi une grande question dans le milieu analytique, cette affaire-là. Enfin, de toute façon, il a un certain nombre de responsabilités et il s'engage progressivement avec quelque chose qui est sans doute un esprit révolutionnaire, mais pas du tout un esprit terroriste. Il nous apprend, Condorcet, qu'on peut être tout à fait révolutionnaire sans participer à la terreur. Et il va donc se passer le fait que, après avoir élaboré un certain nombre de travaux, d'avoir été que son projet de constitution a été rejeté, après une rencontre sans doute très particulière avec Robespierre, avec le génie de Robespierre, je crois qu'Alain en a parlé lundi, de confronter l'interlocuteur dans cette fixité réelle où il était mis. On ne peut pas dire que Condorcet véritablement a été pris comme ça vis-à-vis de Robespierre. Et que sans doute il lui a dit des choses tout à fait... Alors, pour le coup, du côté de la signification tout à fait forte. Et vous savez qu'à un moment, il est amené à se retirer de ce monde-là. Il va se cacher. Enfin, on peut dire qu'il s'est retiré. Et que sur sa femme... le voyant tellement torturé par une justification qu'il voulait faire, il voulait à nouveau prouver que de toute façon il n'avait pas trahi puisqu'il était, il était un traître à la nation. Sa femme, Sophie, va lui signifier un jour, j'imaginais avec vous qu'elle avait dû voir cette fixité du réel sur ses traits, il ne devait plus dormir, il devait être complètement figé, et il va donc, après avoir écrit une vingtaine de pages, s'arrêter, et quand elle publiera ça, en 95, elle va écrire « Interrompu sur ma prière ».« Sur ma prière ». Et c'est à ce moment-là qu'elle lui signifie que, de toute façon, il est tout à fait important, là où il en est maintenant, d'essayer d'écrire ce que, ou quelque chose de ce que, elle sait bien qu'il sait. Et c'est alors qu'il écrit cette esquisse d'un tableau historique, c'est pas de l'histoire, esquisse d'un tableau, il y a le mot tableau qui est tout à fait important, d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Esquisse d'un tableau. Souvent le titre est un peu... on met du tableau historique. Esquisse d'un tableau historique. Et je me laissais comme ça prendre par ce mot tableau pour penser que c'était aussi effectivement un tableau qu'il laissait par ce corps. Alors, depuis la dernière fois, je suis allé un peu regarder dans le sacrement de l'ordination, puisque je vous disais que ce corps étendu me faisait penser à la... Alors, effectivement, où sont les bras? Eh bien, ce n'est pas précisé. Et la seule chose qui est mise dans le rituel, c'est prosterner. Prosternum. Et en fait, quand on discute avec des prêtres, ce qui était le cas, ils m'ont dit qu'ils croisaient les mains
sous le...
pour tenir la tête. Enfin, de toute façon, cette dimension comme ça de, dire, du tronc du corps, avant toute ramification qui apparaît, est une question qui importe parce que je crois que ça pose la, ça peut justement nous réévolutionner au sens où ça nous fait sortir de cette espèce de tourniquet dans la signification, et ça n'est pas sans faire évoquer quelque chose qui, et c'est complètement paradoxal, mais c'est pour le récepteur, c'est pour celui qui le voit, quelque chose qui aurait un rapport avec la jouissance. Bien sûr, ce n'est pas le corps qui est devant nous qui jouit en tant que tel, encore que c'est pas bien ce qui se passe à ce moment-là, mais en fait, de toute façon, hein, qu'est-ce qui se passe quand devant un cadavre? Ce qui est sûr, c'est qu'on... vous avez certainement eu cette expérience, quand vous regardez un cadavre, au bout d'un certain temps, vous voyez que ça bouge. Alors bien sûr, ça vient de nous, si ça bouge, quelque chose qui bouge. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que d'une part, on ne peut pas l'oublier comme ça, le cadavre. Je me souviens, vous avez peut-être connu ça, quand on était enfant et qu'on faisait la tournée des morts, là, sur les lits de morts, on était quand même marqué par cette affaire-là. Et il y en a qui disaient effectivement, tu peux faire ça Daniel comme tu veux, mais c'est quand même vrai. Il y en a qui disaient qu'effectivement ça bougeait, hein. Bon, il y a toutes sortes d'histoires qui sont autour de ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce réel là, si on part de ce réel là, effectivement il est possible, alors, et c'est ça un peu que j'ose lancer, il est possible de lancer une articulation complètement folle, parce qu'apparemment ils sont complètement différents, le passage de Condorcet à Casanova. Parce qu'effectivement, Casanova, l'idée qu'on en a, nous, Casanova, c'est un libertin, c'est quelqu'un qui est un coureur de jupons, c'est quelqu'un qui a parcouru l'Europe pour ça, ce qui est vrai. Seulement, comme Condorcet, on pourrait dire dans ce moment-là, vers la fin de sa vie, il nous a laissé des traces qui s'appellent Histoire de ma vie, et ces traces sévères et authentiquement des traces d'écrivain. Il revient sur sa vie, il est en Tchécoslovaquie, à Duchkov. Il y a toujours un musée actuellement là-bas, et on y est d'ailleurs empaillé, il y a pas de ça, il y a tout un culte qui est sur place, avec le fauteuil rose, etc. Et il va passer, au moment où la révolution commence en France, en 1789, jusqu'en 98 à sa mort, il va écrire ce qui s'est passé dans sa vie, depuis le début jusqu'à une certaine date. Et ce qui est tout à fait important quand on lit ses mémoires, c'est, et d'ailleurs il va le dire, c'est, est-ce que c'est le plaisir, est-ce que c'est la jouissance, c'est compliqué, hein, mais manifestement il écrit ça en français. Alors Casanova est né à Venise en 1725. On pourrait dire que pour lui, il y a deux villes importantes. Il y a Venise et il y a Paris. Venise, parce qu'effectivement, c'est où il est né, avec toute la culture qu'il va y trouver, bien qu'il vienne d'un milieu très humble. Sa mère est comédienne. Et ce qui est important de remarquer, c'est que jusqu'à l'âge de 8 ans, il ne dit pratiquement aucun mot. Il est mutique. Et c'est en rencontrant un certain type de savoir du corps chez une femme, une sorcière, chez qui on va le conduire parce qu'il a des saignements, des épistaxis, des saignements de nez qui sont ininterrompus. Et au bout d'un certain temps, ça émeut tellement la grand-mère, pas sa mère, sa grand-mère, qu'il l'emmène sur l'île qui est à côté de Venise, voir une sorcière qui, dans un cérémonial tout à fait particulier, en prononçant des formules tout à fait particulières, en le mettant dans un coffre, lui, en le prenant dans ses bras, en lui disant que la nuit qui va suivre, une femme va venir le voir, et il va rêver effectivement de la venue d'une femme. Et après cette expérience, on va dire, de cette rencontre de savoir occulte, on va dire, parce que c'est quand même très, très particulier, mais le 18e, c'est ça, hein, aussi, hein, c'est ça un peu l'ombre des Lumières. Il va donc, à la suite de cette expérience, beaucoup moins saigner. Ça n'est pas fini. Et surtout, ce qu'il insiste bien là-dessus, il va découvrir qu'il a un corps pensant. Ça, c'est ses mots en français. Un corps pensant. C'est-à-dire que, ce qui est assez étonnant, c'est que, apparemment, jusqu'à cette période-là, il était fixé, figé par quelque chose, dans un rapport à quelque chose, et que nous, on pourrait dire le rapport à l'objet. Hein. Et c'est la rencontre d'un certain type de savoir, d'un savoir qui n'est pas du tout le savoir, on va dire, autorisé, qui va lui faire découvrir une certaine jouissance du corps et un corps qui pense. Et après cette expérience, il y en aura à nouveau une autre qui est extraordinaire. Étant donné qu'il va mieux mais que ça ne s'arrange pas, il est décidé avec sa mère, avec le prêtre qui est présent dans la famille, et avec, je crois qu'il est là, et avec un poète bafoué, libertin, tout à fait particulier, qui est présent là, il s'embarque. Et ils vont en direction de Padoue, je crois qu'ils doivent aller à Padoue, et il se passe une expérience fantastique qui montre l'importance du récepteur. On va dire que c'est quasiment, moi je trouve que c'est une interprétation avant la lettre de... Alors, il faut imaginer que le petit Giacomo est étendu sur le dos et qu'il voit les étoiles. Alors, il voit les étoiles, comme tout le monde, dès qu'on voit les étoiles, on voit que les étoiles bougent. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas particulièrement, c'est les étoiles qui bougent. Et lui, tout d'un coup, s'écrie, et il dit quelque chose qui est tout à fait particulier, il dit que c'est lui qui bouge et non pas les étoiles. C'est-à-dire qu'il a compris, la découverte scientifique d'avance, et que c'est effectivement la Terre qui tourne. Pas du tout les autres choses qui tournent. Et à ce moment-là, il y a un clivage, il y a ceux qui disent effectivement, t'es complètement bête, t'es un abruti, tu n'as rien compris, c'est sa mère, c'est le curé de service, c'est aussi quelqu'un d'autre qui est là. Et puis il y a un récepteur qui, immédiatement, en entendant ce gamin de 9 ans dire ça, parce que lui, il est effectivement en dehors du savoir habituel et des normes habituelles, lui dit que tu as tout à fait raison, effectivement c'est quelque chose d'extraordinaire ce que tu viens de dire, et à partir de là quelque chose va se nouer entre cet homme et le petit Giacomo, et ça va être à l'origine de tout son développement ultérieur. Alors il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que cette femme qu'il avait vue au début, cette sorcière, lui avait dit aussi quelque chose qui n'est pas sans, je ne dis pas que c'est la psychanalyse, mais enfin ça évoque des choses comme ça, ce qui s'est passé là, tu n'en parles à personne. On peut penser donc qu'en fait, ça a fait interprétation, c'est-à-dire qu'avant, on va dire dans notre jargon, il était su, c'est pour ça qu'il était mutique, qu'il était figé. Et elle lui a dit quelque chose avec des formules, on va dire de la musique certainement, et durant sa vie, à plusieurs reprises après, il va exercer cette fonction vis-à-vis d'hommes, de femmes, et il va guérir, effectivement, les symptômes qui sont présents chez les personnes à qui il s'adresse. Enfin, tout ça pour dire que cette question du savoir, telle qu'elle apparaît, et vous savez, la grande réserve de Freud vis-à-vis de l'occultisme, hein, c'est quelque chose qui ça interroge quand même la question du transfert, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se joue en fait dans cette alcôve particulière qu'est le cabinet du psychanalyste? Autrement dit, est-ce que s'il y a, et là on en arrive à la question de la jouissance, s'il y a la jouissance, telle qu'on appelle nous la jouissance phallique, dans le, au niveau du langage, c'est-à-dire cette limitation, définition des mots et de leur signification, leur articulation, tout ça, tout ce qui est dans, dans le langage, tout ce qui est du côté de l'être parlant, que Lacan nomme la partie masculine. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est très énigmatique, qui est cette part féminine de chaque être parlant. Cette part féminine qui ne rentre pas dans un savoir rationnel quel qu'il soit, c'est autre chose. C'est sans doute sur les bords de l'occulte aussi. C'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose, évidemment, qui ne peut pas se prouver, qui est lié, je crois que c'est une des lectures, vous savez, du « la femme n'existe pas », ça ne veut évidemment pas dire du tout que la femme n'existe pas, le grand « Ella Barré », c'est une façon de dire que si il y a quelque chose qui dit oui à la fonction phallique chez l'être parlant et chez l'homme, chez la part, du côté de la part masculine, il y a aussi, et donc qui dit oui au tout qu'est la fonction phallique, c'est ce tout qu'est la fonction phallique, il y a aussi, et on est divisé entre ces deux parts, il y a aussi quelque chose, et c'est ça l'interdit radical, l'entredit, l'interdit, il y a quelque chose qui est au-delà du tout. Il y a quelque chose qui ne peut pas considérer une catégorisation qui serait dans un ensemble comme tel. Il y a quelque chose qui, et c'est la façon dont il est possible de lire ce patou, hein. Il y a quelque chose qui fait que, une par une, c'est pour ça qu'il n'y a pas la femme, il y a l'homme, mais il y a une femme, une par une, alors entendre par féminine, beaucoup plus que la division, la différenciation sexuelle, on est dans le sexué. Il y a quelque chose qui fait que c'est une par une et singulièrement que peut être perçu et reçu ce qui relève de ce type de discours. Alors, pour moi, c'est une grande interrogation parce que si on en revient aussi à ce moment du XVIIIe siècle, alors ça c'est un peu rapide évidemment, mais évidemment quand on se lance là-dedans, ben, on ne sait pas où on va quoi. On ne sait pas pourquoi on s'est lancé, mais on ne sait pas où on va. Mais une question, c'est est-ce que finalement, ce qui a conduit à, avec tout ce que ça a apporté, les droits de l'homme, etc., mais est-ce qu'il y aurait quelque chose de ça qui toucherait. Vous savez, la part féminine, Lacan, quand il en parle, il n'y va pas doucement. Il dit que c'est quelque chose qui n'est pas dans la nature des choses parce que ça n'est pas dans la nature des mots. Séminaire encore, c'est comme ça qu'il le formule. Ça n'est pas dans la nature des choses parce que ça n'est pas dans la nature des mots. Ça échappe aux mots. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment. Alors ce serait ça la révolution, entre autres, je ne sais pas, mais enfin, pourquoi pas, on peut y aller, on peut dire des choses, après tout, on est là pour un peu avancer ensemble. Il n'y aurait pas eu un moment où cette question se serait posée, c'est ce que dit Nietzsche, un siècle plus tard. Et que cette question, qui était là sous-jacente, mais qui n'était pas formulée, qui se développait, dans un certain type de vie, de rapport à l'autre, où le temps ne comptait pas, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'autre temps qui fonctionnait chez certaines personnes, plus particulièrement évidemment en référence à ce nobiliste dont je parlais tout à l'heure, Et derrière tout ça, à mon avis, il y a toute la question du catholicisme qui est en jeu, parce que ce n'est pas le protestantisme, là, on est dans la contre-réforme, dans la suite de la contre-réforme.
Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là qui ferait que, à un moment, plus particulièrement en France, qui est quand même la tête, qui est quand même le pays qui est le pays de l'Europe. On parle français dans les cours, dans différentes cours. Frédéric II, etc. On parle français. Hein, c'est les Valais qui parlent dans
les correspondances, Voltaire, etc. Tout ça, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est important par le biais de la langue. Enfin, c'est la question que je vous pose. Et je ne peux pas aller plus loin pour le moment, mais enfin. Et dont, en quelque sorte, cet écrivain qui, lui, n'écrit pas dans sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'est le vénitien. C'est pas tout à fait l'italien, c'est le vénitien. Il écrit en français, Casanova. Et il dit qu'il est. Il tient à rester chrétien. Il est chrétien. On lui a proposé différentes autres. Mais il ne veut pas être français. Il est français de cœur, mais il ne veut pas prendre la nationalité française. On lui a proposé, il n'a pas voulu, il a refusé. Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'assez complexe, je pense à l'image dont nous parlait Henri la dernière fois, là, quand il parlait du symptôme, si on laisse un peu tomber tout ça, comment ça va se renouer tout ça, cette histoire du souverain là qui fait le nœud? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, parce que c'est ça finalement notre boulot, il me semble que c'est assez ça, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre qui déjà, je ne dirais pas annoncerait, parce que ce n'est pas annoncé, où il y aurait déjà, on pourrait dire, les sédiments, à partir de quoi, après tout le refoulement dans lequel notamment le 19e va plonger, va permettre l'apparition de la psychanalyse. D'autant plus que, en 1700, je ne connais pas exactement les dates, mais c'est ce que dit Casanova, quand il va à Vienne, après un séjour, après le premier séjour ou le deuxième séjour à Paris, il constate une chose absolument terrible. Autant à Paris, les relations entre les hommes et les femmes étaient très, du moins à un certain niveau, étaient très engageantes et très simples. Dès qu'une femme à Vienne, à ce moment-là, sortait et n'avait pas dans la main un chapelet, elle était considérée comme une prostituée. Parce que l'impératrice Marie-Thérèse avait fait voter, on appelle ça une loi, disant qu'il était interdit, ce qui n'était pas du tout le cas à Venise. À Venise, c'était l'inverse. Donc voilà, un certain nombre de questions que je vous propose pour remuer, pour révolutionner et réveiller un peu tout ça. Voilà, on va s'arrêter là ce soir.